VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition spéciale du lundi 25 janvier 2016. John Lydon à la présentation. Au sommaire ce soir, la tempête des neiges aux États-Unis, même le gouvernement fédéral est fermé. En République centrafricaine, deux candidats restent en liste après la publication officielle ce lundi des résultats du premier tour.
Les candidats habilités à se présenter au second tour sont Anissé Georges Doleguélé, Touadéra Archange Faustin.
Au Cameroun, au moins 29 morts et 30 blessés après un triple attentat dans l'extrême nord du pays.
C'est dans un marché d'un village de la région de Bodo que les trois islamistes ont frappé ce matin.
En Libye, la fin du chaos, c'est pas pour demain. Le Parlement reconnu par la communauté internationale a rejeté le gouvernement d'Union nationale. Dans moins de 10 minutes, la partie magazine, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir et merci de nous retrouver sur VOA Afrique. Les opérations de déblayage commencées dimanche matin se poursuivaient ce lundi dans l'est des États-Unis, profitant d'une accalmie après la tempête de neige qui a fait au moins 25 morts et paralysé plusieurs grandes villes, dont New York. La tempête a frappé la zone la plus densément peuplée des États-Unis, affectant quelques 85 millions de personnes. Il n'est pas né sous la neige, lui, mais bien sous le soleil du Sénégal. Je reçois sur ce plateau mon confrère Idriss Fall. Idriss, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Comment avez-vous vécu cette tempête de neige?
C'est du jamais vu, c'est vraiment du jamais vu de mémoire d'Américains. Certains disent que depuis 1921, il n'était pas tombé autant de neige sur une si vaste région qui part presque de Boston jusqu'en Caroline du Sud. Et 85 millions de personnes qui ont été touchées, on a parlé de 60 cm de neige, imaginez-vous. Donc même pour ouvrir la porte de sa maison, c'était hyper compliqué.
Au niveau de VOA, on a noté une réduction du personnel et un léger changement dans les programmes.
Mais c'est conséquence de la neige, c'est-à-dire le métro est fermé, a été fermé tout le week-end. Le gouvernement fédéral est fermé. Les écoles sont fermées. Les routes, particulièrement à Washington, la capitale, on a du mal à les nettoyer. Donc, du coup, ça a eu un effet sur le personnel de la Voix de l'Amérique. Beaucoup de mes confrères sont restés enfermés chez eux, ne peuvent pas en sortir, ne peuvent pas conduire leur voiture, ne peuvent pas prendre le métro pour venir. Donc, c'est ça qui explique un peu un léger changement dans notre programmation que vous avez senti même cette nuit et même aujourd'hui.
Au-delà de VOA Afrique, on a noté que tout est presque fermé. Cela devrait avoir des conséquences économiques.
Mais bien sûr, je suis sûr que c'est plusieurs milliards de dollars qui seront perdus. Déjà, il y a presque 5000 vols qui ont été annulés. Et quand le gouvernement ferme aussi, c'est beaucoup d'argent de perdu pour le business. Mais je suis sûr que dans les prochains jours, on saura combien tout ceci a coûté.
Idriss Fall, je vous remercie. En République centrafricaine, publication officielle aujourd'hui des résultats définitifs du premier tour des présidentielles et législatives du 30 décembre 2015. Pas de surprise du côté des candidats au second tour de la présidentielle. Des précisions avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
5 requêtes pour la présidentielle avaient été émises à la cour, mais elles ont toutes été rejetées faute de preuves conséquentes. Sans surprise, Anissé Georges Doleguélé, 23,74% des voix, et Faustin Archange Touadéra, 19,5%, s'affronteront au second tour de la présidentielle, selon les résultats définitifs de la cour constitutionnelle de transition. Zakari Ndouba, président de la cour.
Aucun candidat n'ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, les candidats habilités à se présentés au second tour sont Anissé Georges Doleguélé, Touadéra Archange Faustin.
Chez les requérants, on n'est pas tout à fait satisfait, mais obligé d'accepter les décisions irréversibles de la Cour. Dans le camp des deux finalistes, on se frotte les mains et les discours sont plutôt apaisants. Grosse surprise pour les législatives annulées dans toutes les circonscriptions du pays en raison de graves irrégularités constatées par la Cour constitutionnelle, saisie d'ailleurs à travers plus de 400 requêtes. Reste à savoir maintenant la date du second tour de la présidentielle, improbable le 31 janvier 2016, selon le chronogramme électoral et des législatives qui devraient être reprises. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, un triple attentat suicide dans la localité de Bodo, dans l'extrême nord du pays, a fait au moins 29 morts, dont les trois kamikazes et 30 blessés. Ces attentats sont attribués à Boko Haram. Maïlis Heigel.
C'est dans un marché d'un village de la région de Bodo que les trois islamistes ont frappé ce matin. Bodo se situe sur la frontière avec le Nigeria, d'où opèrent régulièrement les combattants de Boko Haram. Depuis 2013, près de 1200 personnes ont été tuées dans des attaques dans l'extrême nord du Cameroun. Les cibles sont régulièrement des marchés ou des mosquées. Les 13 et 18 de ce mois, deux attentats suicides contre des mosquées ont fait respectivement 12 et 4 morts. Comme la plupart des attentats suicides, ils ont été perpétrés par des jeunes femmes. Depuis, les autorités ont interdit le port du voile intégral. Les islamistes nigériens se servaient du nord du Cameroun comme base arrière et pour s'approvisionner en armes, véhicules et marchandises. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire, appuyée par une coalition régionale pour venir à bout des djihadistes.
En Libye, le Parlement, reconnu par la communauté internationale, a rejeté lundi le gouvernement d'union nationale formé il y a tout juste une semaine sous la pression de la communauté internationale pour mettre fin au chaos dans ce pays. Claire Morin-Gibault.
Les espoirs d'une sortie de crise en Libye se sont encore éloignés. Les députés du Parlement reconnus internationalement ont refusé d'accorder leur confiance à ce gouvernement d'union. Selon le député Essa Al-Haribi, 90 des 140 députés présents l'ont rejeté. Un vote positif était crucial pour qu'entre en fonction cette équipe de 32 membres, conduite par l'homme d'affaires tripolitain Fayez El-Sarraj. De profondes divergences sont apparues au sein des deux gouvernements rivaux après des mois de négociations menées par l'ONU. La communauté internationale comptait sur cette autorité pour lutter plus efficacement contre le groupe État islamique et l'afflux de migrants en Europe. Le I a profité du vide du pouvoir pour prendre le contrôle de Sirte et de ses environs. Le groupe djihadiste a récemment lancé une offensive vers la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux pétroliers.
Au Burkina Faso, recherché dans le cadre du putsch manqué au Burkina Faso, dont le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, passe ses premières nuits en prison. Aussitôt après son retour au pays, Eddy Kombo-Higo a été arrêté par la gendarmerie à Ouagadougou. Des précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napan.
Eddy Kombo-Higo a été gardé dans les locaux de la gendarmerie nationale presque aussitôt et après avoir été convoqué. De retour au pays après de longs mois d'absence, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, a seulement passé 24 heures chez lui avant d'être arrêté. Une commission d'enquête diligentée par le gouvernement de transition avait révélé son nom comme ayant été de connivence avec les putschistes. Celui qui médite en ce moment son sort en détention avait pris la tête du parti de l'ex-président Blaise Compaoré après sa chute en octobre 2014. La candidature d'Eddy Kombo-Higo à la présidentielle suivante avait été invalidée par le nouveau code électoral burkinabé qui excluait toutes les personnalités du régime qui avaient activement préparé la modification de la constitution. Les barons du régime avaient alors mené des actions diverses contre le nouveau code électoral jusqu'à l'avènement du putsch manqué du 17 septembre dernier perpétré par l'ex-régiment de sécurité présidentielle et de la traque de tous les individus, militaires ou civils, ayant trempé de près ou de loin dans ce coup de force manqué. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dit l'insécurité persiste, notamment dans la province de Bujumbura rurale. Deux personnes y ont été tuées hier lors d'affrontements à Kivumu, dans Bujumbura rurale. Donc, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a reçu aujourd'hui des représentants de la société civile et du mouvement national des femmes bissau-guinéens. Et puis, la France vise la levée l'été prochain des sanctions imposées à la Russie en raison de la crise ukrainienne. Mais mais à condition que les accords de Minsk soient respectés, a déclaré dimanche à Moscou le ministre français de l'économie Emmanuel Macron. Voilà, on va passer au sport avec Eric. Eric, bonsoir.
Bonsoir, John.
On va commencer par le football, élection à la présidence de la FIFA, 5 candidats à un mois du dénouement.
Oui, les candidats en lice sont le prince Hadid de Jordanie, ex-adversaire de Blatter en mai dernier, le français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, l'homme d'affaires sud-africain Tokyo Sexwell, ainsi que les deux favoris, le Sheikh Salman de Bahreïn, président de la puissante Confédération asiatique, et l'Italo-Suisse Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA. L'enjeu, évidemment, c'est de rétablir la confiance d'une institution aujourd'hui décrédibilisée. Les cinq prétendants s'accordent sur un corpus de mesures de bon sens, comme la limitation du cumul des mandats du président et des membres du comité exécutif, un contrôle renforcé de l'intégrité des membres du gouvernement de la FIFA. Et l'une des promesses phares, John, de Infantino, c'est le passage à un mondial à 40 équipes contre 32 aujourd'hui.
Jaswer Ansi, Coupe de la Ligue anglaise, demi-finale retour, l'ombre d'un doute pour Liverpool et City.
Oui, Everton a dominé Manchester City 2-1 à l'aller grâce à la performance extraordinaire d'André Ayew, le milieu offensif ghanéen. Liverpool inconstant malgré son succès 1-0 à Stoke. Voilà donc les deux favoris en sursis avant les demi-finales autour demain et mercredi.
Le comité olympique russe suspend 4 athlètes pour dopage.
Oui, s'il s'agit de Irina Marakeva, la vice-championne d'Europe 2012 du 800 mètres, et la marcheuse Anna Lukayanova pour 2 ans. Les coureuses Yelena Nikulina et Maria Nikolaeva ont pour leur part été suspendues, John, pour 4 ans.
Et puis NBA, Oklahoma City tombe de haut, Toronto plane.
Oui, Oklahoma City s'est fait surprendre dimanche par l'une des équipes les plus faibles de NBA, Brooklyn, 116-106, tandis que Toronto a décroché une 8e victoire consécutive face aux Los Angeles Clippers. Houston poursuit sa remontée au classement de la Conférence Ouest après son succès face à Dallas, 115-104, sa 24e victoire de la saison grâce à un nouveau triple-double de James Harden. Enfin, San Antonio a annoncé que Tim Duncan ne pourra pas participer au choc très attendu entre Golden State et la franchise texane aujourd'hui.
Merci Eric. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, édition spéciale sur VOA Afrique et voafrique.com. Après 4 ans d'exil, l'opposant guinéen Bawuri Amadou est rentré hier à Conakry. Il avait été condamné par contumace dans l'attaque de la résidence du président Alpha Condé en 2011. Mais le président Condé, depuis sa réélection, a rencontré 2 fois cet opposant pendant son exil. Idriss Fall a joint à Conakry Bawuri Amadou, qui est le premier vice-président de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée, que dirige Sélou Diallo.
Le président Alpha Condé a accordé une grâce présidentielle à 171 personnes le 24 décembre dernier. Je fais partie de ceux qui ont bénéficié de cette grâce. En conséquence, la période d'exil de 4 années et demi ne se justifiait plus. Et j'ai décidé, en relation avec M. Alpha Condé, de rentrer en Guinée le 24 janvier 2016, c'est-à-dire hier. Il a demandé à me rencontrer, ce qui a été fait par 2 fois. Et dans ces entretiens, la nécessité de gracier toutes les personnes incriminées dans le cadre du 19 juillet 2011 contribuait à renforcer un climat de décrispation, d'apaisement pour que la Guinée retrouve le chemin d'une gouvernance plus stable, plus vertueuse et plus démocratique dans le respect des opinions des uns et des autres, qu'ils soient de l'opposition comme de la mouvance présidentielle.
On se rappelle la brouille avec Sélou Diallo alors.
qu'est-ce qui va être fait?
Cette brouille a pris une autre envergure parce que je pense que ce qui était caché est devenu plus ouvert. Le directeur de Cellodalen a montré une volonté ostentatoire du refus du retour de Bahouri dans son propre pays. Mais je pense que le moment est venu de clarifier les choses, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à toute l'opinion nationale et internationale, parce que l'UFDG ne peut pas être prise en otage par un petit groupe qui veut mettre en avant ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt collectif. Ça, en tant que responsable de l'UFDG, je ne le tolérerai pas et je me donnerai tous les moyens pour que ceci puisse être le plus rapidement possible résolu dans l'intérêt de l'UFDG.
Cellodalen Diallo n'est pas venu à l'aéroport. On parle de possibles rencontres avec lui. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une rupture?
Bon, vous savez, nous appartenons à un parti qui est fort, qui est solide, qui connaît des problèmes. Et aussi bien lui et moi, nous devons, à l'intérieur de l'UFDG, trouver des solutions idoines pour l'intérêt de notre institution qui doit être forte. Comme dit Obama, on n'a pas besoin d'un fort dans un parti, dans une institution. Ceux qui croient qu'ils peuvent caporaliser l'ensemble du parti, on verra bien dans les prochaines semaines ce qu'il en fera. Je ne dis pas que M. Cellodalen a cette volonté, mais les faits sont têtus et de toutes les façons, chacun est libre de l'interpréter à sa manière.
Bahouri, premier vice-président de l'UFDG, revenu hier à Conakry. Toujours en Guinée, la vente des médicaments est exclusivement, autant pour moi, réservée aux pharmaciens. Mais le marché des médicaments attire d'autres acteurs et pas toujours les spécialistes. D'où cette lutte engagée depuis quelques semaines par les gendarmes guinéens contre la circulation des faux médicaments. Le reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Trois Guinéennes condamnées il y a quelques jours pour délit d'exercice illégal de la pharmacie à un an de prison par le tribunal de première instance de Mafanko. Ces dames avaient été interpellées par les agents de la gendarmerie guinéenne. Une lutte contre les faux médicaments qui trouve un soutien des Guinéens.
Vous avez mal à la tête, on voulait de prendre des paracétamol et vous prenez de la farine. Est-ce que vous pouvez guérir avec ça?
C'est des poisons qu'on fabrique. Le dosage des produits ne sont pas connus par les vendeuses. Donc, laissez la tâche aux professionnels, aux pharmaciens.
C'est des personnes qui ne sont pas du tout expertes, qui sont en train de manipuler des poisons. Et du moment que le médicament, même s'il est surdosé, il est pris de façon inadéquate, ça peut poser du danger à l'organisme humain.
Danger contre lequel se dressent les hommes du secrétaire à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le colonel Moussa Tchibourou Camara n'entend pas baisser les bras.
Et tout faux médicament est lutté dans le cadre du crime organisé, est lutté dans le cadre de la drogue, parce que tout faux médicament est une drogue, au vu de la loi. Donc la mission continue de belle. Tu vas beau faire, il y a les gens qui pensent que tu es en train de lutter contre leur bien, alors que ce bien-là est en train de soit tuer la population. Les temps ont changé, il faut rester dans, et oublier le passé, faisons face à l'objectif et à l'avenir pour que l'objectif assigné par le président de la République pour santé pour tous soit vraiment un objectif réalisable.
Cette campagne de lutte contre les faux médicaments est menée en collaboration avec l'Ordre national des pharmaciens dont les membres saluent l'initiative.
La vente illicite des produits pharmaceutiques commence à prendre une ampleur très inquiétante. Les produits pharmaceutiques ne doivent pas être à l'apanage de tout le monde. C'est seulement les pharmaciens qui sont habilités à vendre les produits pharmaceutiques.
Il faudrait que les gens sachent pourquoi cette lutte est menée. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt du personnel de la santé, mais c'est aussi dans l'intérêt de la population.
Le colonel Tchibourou a lancé une autre lutte, celle contre les cliniques clandestines. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolifar FM à Mamou.
Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont été durement touchés par les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé. Le gouvernement s'est penché sur la question et a préconisé des mesures sécuritaires de prévention et de lutte contre toutes les formes d'insécurité qui peuvent toucher les hôtels et restaurants du Burkina Faso. Suivons ce reportage de Zoumana Onogo à Ouagadougou.
C'est difficile, c'est très difficile. Les gens hésitent à venir. Les gens même m'appellent et ils me demandent très souvent, Ami, dis-moi, est-ce qu'il y a des blancs là-bas? Vous voyez un peu ce que ça fait? Vraiment, je voudrais demander aux nouvelles autorités du Burkina de prendre cette affaire à cœur parce que je pense qu'on n'a pas assez de moyens, mais il y a des endroits typiques comme mon restaurant, le restaurant ONU situé au centre-ville à Koulouba, où on devait quand même faire quelque chose, c'est-à-dire mettre des forces de l'ordre de façon visible.
Cette complainte de Ami Kankobo du restaurant l'ONU démontre à souhait le désarroi des restaurateurs à Ouagadougou depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé le vendredi 15 janvier. Chez les hôteliers, le temps est tout aussi sombre. Mahamoudou Pierre-Célestin Zungrana, le président de l'association des hôteliers et restaurateurs du Burkina.
Nos hôtels n'enregistrent que des départs. Donc ça cause réellement un problème. Mais nous ne baissons pas les bras. Et nous allons continuer à relever les défis.
Tout cela repose le problème de la sécurité dans les établissements hôteliers et restaurants. Nous avons demandé à Soumaïla Ouédraogo, responsable sécurité à l'hôtel Silmandé, quel est l'état actuel de la sécurité dans les hôtels au Burkina. On l'écoute.
Pour dire vrai, nos hôtels ne sont pas très, très bien sécurisés. Il faut le dire. Pour qu'on puisse corriger, effectivement, il faut qu'on mette le paquet. Mais s'il y a une sécurité intérieure qui est bien formée, qui sait au pif que telle personne qui est là est douteuse, on le suit et on regarde, on trouve les voies et moyens pour contrer les mauvaises actions de ce type-là. J'ai eu à travailler avec différentes agences de sécurité. Je sais comment les vigiles y sont payés. Pour quelqu'un qui risque sa vie, valoriser un peu les émoluments de ces gens-là afin qu'ils se donnent vraiment pour le travail.
Voilà pourquoi le gouvernement burkinabé a décidé les mesures de sécurité qui doivent s'imposer aux hôtels. On écoute Rémi Dandjinou, le ministre porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement a décidé d'assurer une plus grande visibilité des forces armées et de sécurité dans ces espaces-là.
C'est ce lundi que le gouvernement burkinabé va rendre un hommage national aux victimes des attaques terroristes. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Face aux attaques terroristes et djihadistes, beaucoup d'Occidentaux sont en train de plier bagages. Si les ambassades et autres consulats ont demandé à leur personnel non essentiel de rentrer dans leurs pays respectifs, pour les Occidentaux travaillant dans les structures et organismes internationaux, c'est la même chose. Le quartier administratif de Bamako, Assi Amdalé, fait plus de peur à cause de son insécurité, toute chose qui accélère le départ de certains étrangers. Kassim Traoré s'intéresse à ce sujet.
Vendredi 13 novembre 2015, attentat à Paris. Vendredi 20 novembre 2015, attaque à Bamako. Et vendredi 15 janvier 2016, attentat à Ouagadougou. Toutes ces attaques sont l'œuvre des djihadistes et terroristes. Elles ont pour conséquence le départ de plusieurs Occidentaux et autres investisseurs. Mahamane Cissé, enseignant.
Les États africains, même les États occidentaux, ne parviennent pas à apporter la riposte qu'il faut. La riposte en termes de protection des citoyens et de leurs biens. Je pense que ceci qui est arrivé et c'est malheureux que depuis l'attaque de Radisson, les gens ont résisté. Mais avec ce qui est arrivé au Burkina Faso, moi je pense que la psychose devient de plus en plus grande au sein des expatriés et français et autres qui en réalité commencent à redouter des attaques terroristes.
À Bamako comme à Ouagadougou, on peut dire que la cible des djihadistes sont les Occidentaux. Plus d'une trentaine d'étrangers ont été tués dans les deux capitales africaines, Soumaïla Traoré.
D'abord, je tiens à dire qu'ils ont raison. Si on voit les attaques de Radisson Blu et les attaques de l'hôtel Splendid au Burkina Faso, on se rend compte que généralement, ils s'attaquent aux expatriés, les étrangers qui viennent travailler dans leur pays. Avec ces gens, ça risque une autre guerre. On ne le voit pas venir. C'est un mort qui vient vers toi. Donc, on ne sait pas qui est djihadiste, qui n'est pas djihadiste.
L'objectif est de briser aussi l'économie des pays victimes. Car les attaques font fuir les investisseurs qui viennent pour la relance de l'économie dans les pays africains. Abdoul Niang, chroniqueur.
Par exemple, les cas de
Radisson Blue, quand on attaquait cet hôtel, ça trouvait que c'était la journée des mines qui était organisée au Mali et beaucoup de gens étaient venus pour cette circonstance. Ça a coïncidé également, on a vu les Chinois qui étaient là, étaient venus pour la réalisation des projets conclus avec le gouvernement lors de la visite du président de la République en Chine. Donc ça brise tous ces bons projets et qui peuvent nous aider à nous développer.
Les casques bleus ne sont pas des alternatives dans la lutte contre le terrorisme. Malgré les différentes formes de leur mandat, les soldats des Nations Unies n'ont jamais combattu le terrorisme au Mali.
Partout où ces forces internationales sont installées pour lutter contre ce terrorisme, on voit qu'au lieu de combattre ce fléau, ça devient international. Ça s'accentue davantage. Je pense que les Nations Unies doivent pouvoir compter sur les forces nationales. S'il y a défaillance, aider les autorités de ces pays à corriger ces défaillances-là. Doter les forces nationales de moyens adéquats, avec des renseignements et des moyens techniques, une formation réelle pour faire face au fléau. Les forces internationales peuvent aider dans le domaine de la logistique et dans le domaine des renseignements.
En tout cas, l'insécurité à Bamako et surtout dans la zone ACI 2000 s'aggrave de jour en jour. Dans la nuit du 23 au dimanche 24 janvier 2016, un homme a tiré à bout portant sur sa femme dans le quartier ACI 2000. Les enquêtes sont actuellement en cours. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
La grogne sociale continue en Tunisie. Après plusieurs jours de manifestations contre la pauvreté et le chômage, ce lundi, les forces de l'ordre ont manifesté devant le palais présidentiel. Ils réclament une hausse des salaires. 5 ans après le printemps arabe, pourquoi ces nouvelles manifestations? Et Chassara a joint le docteur Chérif Mazen, expert en sécurité à Tunis.
Ils demandent leurs droits. Il y a beaucoup de droits, donc sociaux et matériels des policiers. Ça, c'est depuis la Révolution, donc ils survolent pour avoir leur droit. Donc les syndics des policiers ont bien demandé. Après, c'est le terrorisme, donc ils ont besoin de la logistique et des personnes, des lois aussi, surtout des lois.
Et les manifestations sont-ils violents? Est-ce qu'il y a des blessés?
Non.
Et comment réagissent le gouvernement?
Ah, toujours, ils disent les mêmes choses, donc on va faire et on va faire, mais ils ne font rien. Pour le peuple ou pour les policiers, pour n'importe qui, le gouvernement est incapable, il ne faut rien faire. Pour l'instant, même dans un futur plus profond. Donc, ils sont incapables. Il y a des problèmes de géostratégie, des problèmes ici, dans la vision politique.
Et alors, comment voyez-vous que cette situation va se terminer?
Je ne sais pas. Je suis un stratège, mais je ne vois rien en futur parce que nous avons donné des programmes, des stratégies, mais on n'entend pas. Peut-être, même s'il y a des nouveaux ministres, il y a des tas d'amis avec des capacités, des vrais experts, mais est-ce que la politique tunisienne est si mûre pour le faire, je ne sais pas, mais on a un vrai problème stratégique contre Tunis. Problème de gouvernance aussi, un problème de vision, un problème de négociation, un problème de quand on dit quelque chose, on doit le faire, mais ils ne font rien, et l'état des problèmes, et ainsi de suite. Donc il y a un magma de problèmes en Tunisie maintenant. Un magma partout. Espérons que le monde et l'Amérique aident la Tunisie avec la vision stratégique, surtout des conseils, des je sais pas comment.
Dès la transition politique qui a commencé en 2011, la Tunisie ne parvient pas à s'extirper du marasme économique. Ouais. Qu'est-ce qui va vous aider? Ces manifestations vont-ils faire évoluer des choses?
Non, peut-être qu'ils sont des opinions seulement, mais ils vont évoluer. Non, ce sont des problèmes qui se manifestent avec des autres problèmes, comme le faisait de très jolis peuples tunisien, donc il y a le chaos, il y a cassé et brûlé, ça ne donne pas de solution. C'est le problème de la Tunisie. C'est une démocratie, mais il y a des problèmes de l'époque de Ben Ali, il y a des autres plus profonds après, il y a le terrorisme qui a massacré l'économie, et tout le monde veut avoir ses droits, mais ses devoirs, est-ce qu'il donne son devoir? Et ça, c'est un vrai problème d'un tiers monde après l'Arabic Spring. It was not an Arabic Spring, it was...
Le docteur Mazen, expert en sécurité à Tunis, au micro de Echa Sarai.
Je m'appelle Marie-Josée.
C'était Le Monde Aujourd'hui, édition spéciale du 25 janvier 2016 sur VO Afrique et voafrique.com. Merci à toute la rédaction. Georges Léonard Sagnot était à la production. Mise en onde de Zénab. John Lyndon était à la présentation. Merci pour votre aimable attention et restez fidèles au programme de VO Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.